Et voilà, c'est parti. Yofi. Tov. Alors, on est lancé. Hop là. Alors, Erev Tov, les Koulam. Erev Tov, les Koulam. Je vais tout de suite lancer la musique. Alors voilà, on a lancé notre étude de ce soir sur Rabbi Yaakov Moshe Harlap, Rabbi Yaakov Moshe Harlap. J'ai voulu appeler le cours à Tzadik Shel Torah, le Tzadik de la Torah. Alors, venez, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Le Nigoun qu'on vient d'entendre, c'est lui qui l'a mis en forme. Et on va parler de l'histoire de ce Nigoun qui résumera énormément sa pensée, son travail et son influence. Alors, les amis, rentrons dans le vif du sujet. Qui c'est Arav Yaakov Moshe Harlap? D'abord, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui porte un nom de famille avec des initiales. Puisque le nom de famille du Rav, Harlap, eh bien, quand on écrit Chet, Reish, Lamed, Tchoupchik, Pei. C'est-à-dire que c'est pas un nom de famille. En fait, ce sont des initiales, Harlap. Ce sont les initiales de Chaya Roche le Golay Pauline. C'est-à-dire le patron des gens qui viennent de Pologne. Donc, on voit tout de suite qu'il va faire partie d'une grande famille et surtout d'une grande responsabilité qui lui pèse sur le dos depuis sa naissance. Il naît en 1882 à Jérusalem. Sa famille arrive déjà bien avant lui puisque sa famille arrive à Jérusalem parmi les Talmidés à Gaon Mivilna. Parmi les Talmidés à Gras, eh bien, la famille Harlap va arriver à Jérusalem. Donc, on est au tout début du 19e siècle. Et ils vont arriver à Jérusalem. Maintenant, attention. Puisqu'il fait partie de cette Shoshelet, Rabbi Yaakov Moshe Harlap, de cette dynastie des élèves du Gaon de Vilna, eh bien, cela veut dire qu'il est un membre à part entière de ce qu'on appelle Ayishuv Ayashan. Il fait partie des gens de l'ancien Yishuv d'Israël. Il est donc ce qu'on appelle un Yerushalmi. C'est un Yerushalmi. Mais attention, quand on dit Yerushalmi, ça ne veut pas simplement ça ne fait pas seulement référence à un lieu de résidence, mais c'est tout un mode de vie d'être les Yerushalmim de cette époque-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les élèves du Gaon de Vilna qui vont arriver à Jérusalem, qui vont construire le Yishuv Ashkenazi Birushalayim, eh bien, comprenez-moi bien, ce sont les sionistes avant le sionisme. C'est-à-dire que tous les membres du Yishuv Hayashan, ces gens qui sont venus à la toute fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle pour les élèves du Baal Shem Tov, ou au début du XIXe avec les élèves du Gaon de Vilna, eh bien, ce sont des gens qui viennent en Israël par pur sionisme. C'est-à-dire que pour eux, c'est un sionisme qui vient du plus profond de la Torah. Ils ont lu les textes, ils ont compris l'appel d'Akadosh Baruch Hu, et ils reviennent. Et ils sont là pour une seule raison. Ils sont là pour emmener la Géoula. Tout simplement. C'est voilà l'objectif clair. On se rappellera de Rabbi Yaakov Moshe Harlap, qui dira de son grand-père. Donc on est vraiment dans les élèves du Gaon de Vilna qui viennent ici, et qui dira qu'ils ont arrêté de dire Tikkun Chatzot. C'est-à-dire, ils ont arrêté de prier pour la fin de la Galoute et le début de la Géoula parce qu'ils se voyaient déjà comme étant, ça y est, on y est arrivé. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui viennent en Eretz Israël motivés par, eh bien, l'idéal du sionisme avant l'heure. Je dis avant l'heure parce que, évidemment, quand on parle du Yishuv Hayashan, des élèves du Gaon de Vilna qui arrivent en Israël en 1808, il n'y a pas encore de Herzl, il n'y a pas encore de congressionniste, il n'y a pas encore le projet du sionisme nationaliste qu'on connaîtra plus tard. J'irais même jusqu'à dire que lorsque, eh bien, le Rav Harlap, Rabbi Yaakov Moshe, va naître en 1882, eh bien, il y a la première alia, mais il n'y a pas encore Herzl. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Herzl a 22 ans, il n'a pas encore écrit quoi que ce soit. Donc, on parle ici du sionisme avant le sionisme. Alors, pourquoi c'est important de le souligner? Parce que tous les gens du Yishuv Hayashan, et particulièrement à Jérusalem, eh bien, quand ils vont voir arriver le sionisme laïque et le sionisme national mis en place par le Congrès sioniste, eh bien, ils ont un double problème. Leur premier problème, c'est que, eh ben, ils sont très contents de les voir arriver. Leur deuxième problème, c'est que ils sont très contents de les voir arriver. C'est-à-dire qu'ils sont très contents de les voir arriver, mais c'est un problème parce que, eh bien, ils n'ont pas mis la kippa avec. Et pour eux, qui se voyaient comme étant les détenteurs de la tradition juive depuis 2000 ans, qui sont revenus en Israël, mais ils se disent, mais attends, eux, ils pensent comme nous, il faut revenir. Mais elle est où leur kippa? Et donc, ils sont très contents de les voir, mais ça leur pose un grand problème parce que, eh bien, le projet est le même, mais l'accomplissement n'est pas le même. Et leur deuxième problème, c'est qu'ils sont très contents de les voir, mais ils ne peuvent pas participer officiellement, eh bien, à cela. Ils ont un problème interne de participer à la construction laïque du pays, même si, ben, ils pensent que c'est bien. Et là, je donne une anecdote comme ça tout de suite vite fait. L'anecdote de Rav Yaakov Moshe Harlap, lorsqu'il y a l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem, le Rav Kook, on va beaucoup parler du rapport entre le Rav Harlap et le Rav Kook dans deux minutes, mais le Rav Kook demande non seulement à être présent, mais à être le premier qui va faire un discours. Pardon ? C'est bon ?
Non, c'était... Il y a eu une coupure.
Il y a une coupure, ouais, voilà.
Voilà, tu m'as retrouvé ?
Merci. Là, on t'a retrouvé.
Ouais. Yofi. Donc, je disais, à l'inauguration de l'Université hébraïque de Jérusalem, eh bien, le Rav Kook va demander à être le premier qui va faire un discours. Le Rav Harlap n'y va pas. Il n'y va pas, pas parce qu'il pense que c'est pas bien qu'il y ait une université, mais parce que, cachez-le, et comme tous les gens du Yishuv Hayashan, de voir les gens... construire et réussir là où eux, eh bien, ils n'ont que rêvé de le faire. C'est donc à Yerushalmi. C'est donc à Yerushalmi, mais je voudrais que vous compreniez bien de quoi on parle, de qui on parle. Parce qu'on va parler de quelqu'un qui est, et j'ai appelé ce cours le tzaddik de la Torah, parce que véritablement, on parle d'une dimension de tzidkout qui n'a pas son égal. Et je voudrais commencer par une toute petite histoire. Elle nous est mentionnée par Rav Yehuda Eben Shmuel. Rav Yehuda Eben Shmuel, vous le connaissez très certainement par ses traductions et ses commentaires du Rambam, du Moré Nevouchim, de Rav Yehuda Alevi, c'est lui qui va traduire le Kuzari. Bekitsur, Rav Yehuda Eben Shmuel, eh bien, il raconte que lorsqu'il écrit son commentaire et sa traduction du Moré Nevouchim, eh bien, il veut en apporter un exemplaire à Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Nous sommes le soir Erev Rosh Hashanah. Il décide donc de marcher de Rechavia, où il habite, jusqu'à Shaar Chesed, où il y aura la synagogue de Yaakov Moshe. Et donc, il va là-bas. Et lorsqu'il arrive, il s'assoit tranquille, il fait la tfila, et arrive la fin de la tfila de la Amida. Il a terminé sa Amida de Arvit, et donc dans quelques minutes, ça va être la fin de la tfila, et il voulait... Eh ben, s'empresser de pouvoir donner son livre et de demander une bracha de Shana Tova au Rav Harlap. Et il voit que le Rav n'a pas terminé sa Amida. Alors il s'assoit à côté. Jusqu'à ce qu'au bout de quelques minutes, les enfants du Rav Harlap viennent voir le Rav Ibn Shmuel et lui disent « Vous attendez, papa ?» Alors, non, c'est pas la peine. Parce que là, nous, on va rentrer à la maison. On va manger la Seouda de Erev Rosh Hashanah, la Seouda Trag. On va chanter, on va être content, et on revient d'ici 3 heures pour récupérer papa, mais il n'aura pas encore terminé. là, c'était Yadoua, que la tfila de Rabbi Yaakov Moshe Harla Berev Rosh Hashanah, c'était 3 heures de Hamida. Et ne croyez pas que c'était Stam, c'était 3 heures de Hamida Kenneged, face aux 3 premières heures de la création de l'homme, dans laquelle il n'y avait pas encore eu le moindre qu'il coule, le moindre problème. Il voulait se rattacher à Adam Harishon avant toute chute possible. Donc je vous parle ici de quelqu'un qui va évidemment être une personnalité absolument extraordinaire. Donc j'ai dit, il fait partie de ce sionisme avant l'heure. De la même façon, eh bien, il va devenir non seulement sioniste avant l'heure, mais il va surtout être quelqu'un qui est d'une tzidkout, prishut, vesakfanut énorme. Il est le Talmid Mouvak. Il va être l'élève, dans un premier temps, du Rav Yehoshua Tzvi Michal Shapira, qui était un des Mekoubalei Yerushalayim, grand tzaddik de cette époque-là, mais très connu pour, eh bien, une vie extrêmement difficile qu'il s'imposait à lui-même. Une vie faite de jeûne, une vie faite flagellation. C'est-à-dire qu'il y avait cette chita dans certaines personnes à Jérusalem, qui était d'être extrêmement dur avec eux-mêmes dans leur comportement corporel pour prendre quelque part, eh bien, leur part du poids du monde. Alors, vous allez tout de suite me dire, c'est pas très juif, cette histoire. Et effectivement, c'est pas très juif, c'est évidemment hérité de nos amis chrétiens, et ça va être une des choses contre lesquelles le Rav Kook, eh bien, va énormément s'opposer à ses agissements auprès du Rav Harlap, et va tout faire pour le faire changer à ce niveau-là. Encore une fois, je parle comme ça du Rav Kook et du Rav Harlap. Dans quelques minutes, nous allons voir quelle est leur relation. Mais une chose est sûre, le Rav Harlap grandit dans une ambiance de tzniout, de chassidout et de anava énorme. Juste que vous compreniez 2 secondes, en 1909, bah, vous avez compris, et il n'a que 27 ans, il est nommé le Rav de Shaare Chesed. Il est le Rav du quartier de Shaare Chesed. Alors vous allez me dire, bon, bah, c'est un Rav de quartier, d'habitude tu nous fais des shiurim avec des gens qui deviennent Rishon Letzion. Là tu me parles d'un Rav de quartier. Oui, mais c'est Shaare Chesed. C'est Shaare Chesed au début du XXe siècle, c'est-à-dire que tu as une concentration de Talmidei Chachamim énorme au mètre carré, qui est peut-être la plus grande concentration jamais enregistrée nulle part et à aucun moment. Donc, si tu veux, Shaare Chesed de cette époque-là, c'est chaque maison, c'est un Talmid Chacham qui a écrit un commentaire du Talmud. Et c'est lui, ce jeune de 27 ans, qui est choisi pour être le Rav de la Shrouna. Ça vous laisse un tout petit peu comprendre quel était le regard qu'avaient les gens sur Reb Yaakov Moshe Harla. Lorsqu'il est dans son tekes, dans sa cérémonie d'intronisation, sa maman, Rabbi Yaakov Moshe, ne peut pas être présente, elle est malade. Et donc on vient lui faire un rapport et on lui dit, vous savez, il y a eu un grand kavod qui a été fait à votre fils. Et quand on lui dit ça, elle se met à pleurer et elle dit, oy vey, toute ma vie, j'ai prié pour que mon fils, Rabbi Yaakov Moshe, il soit un tzadik nistar. Pourquoi l'avez-vous dévoilé aux yeux de tous? Donc, on est vraiment dans une famille qui ne cherche pas le kavod, ne cherche pas à être mise en avant. Anava mouchletet, tzidkout, mamash, je veux pas me mettre en avant. Agave, entre parenthèses, c'est à cause de ça, hein, que lorsque le Rav Kook décède en 1935, eh bien, ce n'est pas lui qui le succède au grand rabbinat d'Israël, mais ça sera, un petit peu plus tard, ça sera le Rav Herzog. Le Rav Harlap et le Rav Herzog sont en compétition pour, eh bien, le poste de grand rabbin d'Israël, et à cause de sa titkout, anava, prishut, yetera, eh bien, le Rav Herzog est préféré au Rav Harlap. Donc, tout ça pour lancer notre histoire sur un personnage qui a une dimension personnelle de grandeur qui est extraordinaire. Mais comme on l'a dit, c'est un Yerushalmi. C'est un Yerushalmi depuis plusieurs générations. Et puis, il habite à Jérusalem. Et voilà. Ses rabbanim sont les rabbins de Jérusalem. Mais il est très ami avec celui qui va devenir le grand rabbin de Jérusalem, qui s'appelle Rav Tzvi Pessach Frank. Le Rav Tzvi Pessach Frank vient le voir, nous sommes en 1904. Et en 1904, le Rav Frank vient voir le Rav Rarap et lui dit « Il faut que tu viennes avec moi. » Où ? Où il faut que je vienne ? « Il faut que tu viennes avec moi à Yafo. Viens avec moi à Yafo. » Et comment ça, viens avec moi à Yafo ? Oui, viens avec moi à Yafo. On a quelqu'un à aller rencontrer. Oh, nous ! La vérité, c'est que au début, il veut pas trop, mais comme il souffre de problèmes de peau dus à ses mauvais traitements qu'il se donne à lui-même, eh bien, les médecins qu'il a été voir lui ont dit que se tremper dans l'eau de mer, ça peut pas faire de mal. Donc, ils lui disent, va au mikvé, dans la mer. Donc, puisque les médecins lui disent, et son copain, Laura Franck, lui dit, viens, on va à Yafo, alors ils y vont ensemble. Sauf que, si, pour le Rav Yaakov Moshe, c'est pour aller se tremper dans la mer, Laura Franck a une autre idée derrière la tête. Il veut l'emmener, rencontrer celui qui vient d'arriver, qui est le grand rabbin de Yafo et des Moshavot. Vous aurez compris, il va rencontrer le Rav Kook. Il va rencontrer le Rav Kook. Et là, eh bien, j'ai envie de te dire, Zéou. Zéou. Le monde change pour Rabbi Yaakov Moshe Charlap. Il raconte dans Maïna Yeshua sa rencontre avec le Rav Kook. Il raconte et il te dit, je cite, Ayamim lifne chag Shavuot. Nous sommes juste avant la fête de Shavuot et je suis venu à Yafo. Et après ma tefila dans la synagogue de Shaharé Torah, j'ai entendu. J'ai entendu le matin de Shavuot, je suis resté à Yafo pour Shavuot, et j'ai été prié dans la synagogue avec le Rav Kook, et là j'ai entendu les Hagdamot. Vous savez, chez les Ashkenazim, juste avant de lire la Aseret Hadibrot dans la Torah, on s'arrête dans la lecture de la Torah, et on va dire les Hagdamot. C'est tout un champ énorme qui nous prépare à recevoir la Torah. Il dit, j'ai entendu Arav Omrer et Hagdamot Lifna Kaal Beretet Ubefria. J'ai entendu le Rav trembler quand il était en train de lire la Hagdamot Venis da Zeti Ad Yesod Nafshi. Et j'ai tremblé moi-même jusqu'à l'essence de mon être. Vemotasha Avaelach. Davakti barav be'ava aza. Et à partir de ce moment-là, à Shavuot 1904, il devient le Talmid Mouvak, l'élève numéro 1 du Rav Kook. Et là, vous vous dites, mais attends deux secondes. Moi, je connais les shiurim du lundi soir à Givat Shmuel sur les grands personnages. Ça fait déjà plus de 3 mois qu'il nous fait des cours chaque semaine sur un personnage. Et on a déjà eu un cours sur le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui était évidemment l'élève de son père. Et on a eu un cours également sur le Rav David HaKohen, un des premiers cours d'ailleurs, sur le Rav Anazir, qui était l'élève du Rav Kook. Alors comment ça, le Rav Frarlap est l'élève numéro 1 du Rav Kook? Eh bien oui, vous aurez compris, le Rav Kook a 3 élèves. Le Rav Kook a 3 élèves, mais ce qui est fantastique, c'est que ces 3 élèves ne se ressemblent pas du tout. Il s'agit de 3 identités complètement différentes. Et si je puis dire, eh bien, le Rav Frarlap vient tout simplement compléter les 3 piliers. Dans le livre de Orot, du Rav Kook, dans la partie qui s'appelle Orot Atria, au chapitre 18, le Rav nous dit que le peuple juif est composé de 3 factions. Une qu'il appelle à Kodesh, à Torah, l'autre qui s'appelle à Uma, à Léoumiout, le peuple, et la troisième s'appelle à Enoshiout, à Adam, l'humanité. Et nous dit le Rav Kook, bien qu'il faut que les 3 soient présents chez chacun, eh bien on trouvera toujours quelqu'un qui est plus un des 3. Eh bien les amis, les 3 élèves du Rav Kook ont chacun pris sur eux d'être un des 3. Alors que le Rav Anazir était beaucoup plus penché sur la question de l'humain, le Rav Tzvi Yehuda a mis en place la dimension de Léoumiout, le Rav Harlap était le pilier de la Torah, tout simplement. Il était considéré et reconnu comme étant Mikdolé Talmidei HaChachamim de Jérusalem. Et c'est ce qui m'amène à dire la chose suivante. Il devient, comme on l'a dit, à 27 ans, le Rav de Shaaré Chesed, ce qui fait de lui, de facto, reconnu par ses pères, Gdol Rabbané Yerushalayim. C'est énorme. C'est énorme. Et on va dire la chose suivante. C'est parce que le Rav Harlap est devenu l'élève du Rav Kook et qu'il a accepté le Rav Kook que le Rav Kook a réussi en Israël. Parce que comme le Rav Harlap en avait fait son maître et que tout le monde reconnaissait la grandeur du Rav Harlap, eh bien, si le Rav Harlap a accepté le Rav Kook comme étant son maître, alors c'est que le Rav Kook, c'est quelqu'un de grand. C'est-à-dire que le Rav a réussi grâce à son élève. Et ça, eh bien, évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Alors, que dire à la mort du Rav Kook en 1935? Eh bien, c'est lui, Rabbi Yaakov Moshe Harlap, qui prend la direction de la yeshiva de Merkaz Arav. Il devient Rosh Yeshivat Merkaz Arav. Il a 53 ans et il le restera jusqu'à sa mort en 1951. Il est donc le Rosh Yeshiva avant le Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Tzvi Yehuda le remplacera après sa mort. Donc, on parle de quelqu'un qui va, ben, comment vous dire, être le successeur du Rav Kook. Mais c'est extrêmement difficile pour lui. Je viens de vous dire qu'il s'était complètement annulé devant le Rav Kook. Mais qu'est-ce que ça lui a demandé comme travail? Qu'est-ce que c'était dur pour lui? Vous comprenez? Rabbi Yaakov Moshe Harlap répond parfaitement à la définition de Rabbi Nachman de Breslav qui s'appelle Tzadik Veralo. Nous dit Rabbi Nachman de Breslav, quelle est la définition de ce qu'on appelle Tzadik Vetovlo Vetzadik Veralo? Tzadik Vetovlo, nous dit Rabbi Nachman, c'est un tzadik Ve'alacha kemoto. C'est un tzadik et son avis, c'est la halacha. Donc, tovlo, il est content. Alors que tzadik ve'ralo, c'est un tzadik. Mais ce qu'il pense, ce n'est pas la halacha. Et donc, c'est très dur pour lui. Eh bien, Rabbi Yaakov Moshe Harlap, c'est exactement ça. Dans sa conception du judaïsme, qui est celui du Yishuv HaYashan, de Rabbanei Yerushalayim, de ce sionisme d'avant le sionisme, eh bien, son état d'esprit n'est pas du tout celui de du Rav Kook. Et il va accepter de se faire, quelque part, entre guillemets, violence. Et Zehu Gibor a Kovesh et Yitzro, ou Kovesh, il va réussir à prendre le pas sur l'idéologie qu'il a toujours apprise. Il y a une lettre extraordinaire, extraordinaire qu'il écrit au Rav Kook. Magnifique. Pendant cette ligne, il donne des qualificatifs, des superlatifs au Rav Kook extraordinaires. Et puis après, il lui dit, j'écris cette lettre avec le sang qui coule au travers des larmes de mon cœur brisé. C'est un concept. Il dit, j'écris parce que j'ai compris. J'ai compris. Je suis d'accord, mais ça me fait tellement mal. De quoi ? Il parle de la Géoula. Pour lui, comme pour les rabbinés Yerushalayim, la Géoula, ça doit venir par des miracles. Ça doit venir comme à la sortie d'Égypte. Et le Rav Kook explique que la Géoula, elle doit être alpia teva. Et elle se fait doucement, doucement. Et qu'au contraire, le fait qu'elle se fasse doucement, doucement, eh bien, ça lui donne une plus grande puissance. Puisqu'elle ne transgresse pas les lois de la nature. Et donc, elle s'inscrit dans la nature qui permet de dévoiler à Kadosh Baruch Hu au quotidien. C'est tout l'enseignement de Horoth. Le Rav Harlap, il dit, voilà, j'ai compris, j'accepte, mais qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Gdol Rabbanei Yerushalayim, mais qui accepte de s'annuler complètement devant le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Ze Rav Harlap. Tzniut Anava Kdusha, Kdusha Eliona. Le Rav Harlap, maintenant qu'on dit ça, on peut commencer à rentrer dans son enseignement. Alors attention, hein. Alors là, que les choses soient bien claires. Quand je te dis que c'était Gdol la Torah, Ve Tzadik Ve Torah, juste que tu comprennes, le bonhomme, il a écrit. Hein. Ah, il a écrit. Ah, elle a écrit des trucs. D'abord, toute sa Torah, et ça c'est peut-être un enseignement fondamental pour nous tous. Moi, je pose la question à tout le monde. Et Libère Dugo, je te pose la question. D'où elle te vient, ta Torah? Et me dis pas Laura Fison, certainement pas. D'où elle me vient, moi, ma Torah? Quand je dis ça, j'ai tendance tout de suite à penser au Rav Cherki et aux autres rabbinim que j'ai rencontrés dès que je suis arrivé en Israël. Non, m'explique le Rav Harlap. Ta Torah, elle te vient d'abord et avant tout de papa et maman. Et c'est l'homme échané qui t'ont enseigné ou pas la Torah. Chaque chanson que maman elle t'a chantée, c'est Torah. Chaque moment où ton père il t'a amené à la synagogue, c'est Torah. Les premiers livres que le Rav Harlap va écrire, c'est une série de livres, il y en a deux. Il y a une série qui s'appelle « Mei Marom » et l'autre qui s'appelle « Beit Zevul ». Les deux sont complètement différents. « Mei Marom », c'est une explication des Haggadot. Des Haggadot, pas que du chasse, des Haggadot en général, qu'il y a dans le peuple juif. « Beit Zevul », c'est un commentaire ilchatique sur les sugyot ilchatiyot du Talmud. Mei Marom, c'est au nom de sa maman, qui s'appelait Myriam. Mei Marom, pour Myriam. Alors que Beit Zevul, c'est au nom de son papa, hein, qui s'appelait Zevulun. En d'autres termes, nous dit Rabbi Yaakov Moshe Harlap, d'abord ta Torah, et c'est vrai pour tout le monde, les amis, ta Torah, c'est papa et maman. Après, bon, il se trouve que les parents de Rabbi Yaakov Moshe, c'était aussi des Talmidei Chachamim, lui et elle, qui ont pu lui apprendre plein de choses au-delà des chansons et du moment où il l'a amené à la joule. Mais, faut pas oublier que notre Torah, elle vient d'abord de ce qu'on a reçu chez papa et maman. Mais la Torah de Rabbi Yaakov Moshe Harlap, c'est une Torah qui est Mekifa Meod, je vous ai dit. Donc il y a Memarom, il y a un commentaire sur les différentes fêtes, il y a un commentaire sur le livre de Tehilim, sur le livre de Mishneh, il y a un commentaire sur la Gada de Pessah, évidemment, sur les Migilot Esther, les Migilot Eicha. Il va également avoir un commentaire sur Shaare Dat, qui est un commentaire sur Shaare Ora, Shaare Ora, des livres de Kabbalah. On va avoir également Beit Zevul, c'est six halakim sur les commentaires ilchatiyot du Talmud. On a des commentaires sur également des mirtavim qu'il y a entre les Talmidei Chachamim. Il va écrire d'ailleurs un livre qui s'appelle Tovim Meorot. Tovim Meorot, c'est un livre qu'il explique pour expliquer aux gens qui se sont opposés au Rav Kook pourquoi le livre de Orot, c'est Beseder. C'est-à-dire qu'il va traduire le livre de Orot dans un langage de Yiddishkeit des Rabbounei Yerushalayim pour calmer un petit peu les rabbanim de Jérusalem et qu'ils comprennent que ce que dit eh bien, son maître, le Rav Kook, c'est Gadol. Bekitsour, autant vous dire qu'au niveau Torah, c'est Anak, Anak à Torah, Aval. Je voudrais me concentrer sur autre chose. Le Rav Harlap a donné un chidouche extraordinaire. Il dit dans Maayane Yeshua, c'est toute une série de livres qui parlent de notre temps, c'est-à-dire de son temps, du temps de la Géoula. Et bien dans Maayane Yeshua, il va expliquer quelque chose de fondamental. Il dit que dans chaque génération, le grand travail des rabbanim est de comprendre quelle est la nekuda amerkazit chez la dor. Nous disons, frère, là, dans chaque génération, il y a un point parmi tous les points de la halakha et toutes les mitzvot. Il y a un truc dans chaque génération, différent dans chaque génération, qui est le point central de la génération. Nous dit le Rav Harlap, dans notre génération, le point central, c'est Eretz Israël. La question d'Eretz Israël est le point central de notre génération. Zéou, Ein Machou Acher. Évidemment qu'il y a Machou Acher. le Rafran Lab, c'est Kadosh Elyon. Mais le point central de notre génération, c'est Eretz Israël. D'ailleurs, eh bien, lorsqu'on parle d'Eretz Israël, il était extrêmement virulent contre l'idée même de donner des territoires dans quelque contexte que ce soit. Il s'est opposé farouchement à toute possibilité, jusqu'à ce qu'il disparaisse en 1951, mais à toute possibilité de redonner des territoires aux Arabes après la guerre d'indépendance. Quand on lit les ouvrages du Rav Tzvi Yehuda, eh bien, on ne peut pas ne pas voir directement qu'il y avait entre les deux hommes des tensions. Le Rav Tzvi Yehuda, Moshe Harlap, Yaakov Moshe Harlap, eh ben, c'était tendu entre les deux. Pourquoi c'était tendu? Bah, parce que l'un est le fils, l'autre est l'élève. Le Rav Anazir va arriver beaucoup plus tard dans le club des élèves du Rav Kook. Donc, il y a le fils et il y a l'élève. Et ils pensent pas du tout pareil. Puisque le Rav Tzvi Yehuda a été bercé par le nationalisme juif révélé par son père. Et on a dit, le Rav Harlap, lui, c'est la Torah intramuros. Aval, les deux vont pleurer ensemble et vont se réunir ensemble. Quand? Eh bien, dans une soirée extraordinaire. Une soirée extraordinaire qui aurait dû être une soirée de Pashut, de Simcha Atsuma. Mais pour le Rav Tzvi Yehuda et le Rav Harlap, c'était une soirée très, 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 très dure. De quoi je parle? Nous sommes en 1949. En 1947. En 1947, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons le Tochnit Achalouka. Nous avons le plan de partage de la Palestine voté par l'ONU. Et lorsqu'on a ce plan de partage, eh bien, vous savez ce qui se passe? Am Israël, en tant qu'il y a 33 pour, 13 contre et 10 abstentions, la loi, enfin, la motion est votée et tout le peuple juif descend dans les rues et danse partout. Ça y est, demain, il y a un pays. À ce moment-là, le Rav Tzvi Yehuda rentre dans la chambre, dans la chambre de son père, la chambre d'études personnelle de son père, qui n'était donc plus là, et à ce moment-là, il se met à pleurer. Il se met à pleurer et il dit ce verset de nos Chachamim, il dit « Et arzi chileku ». Et oui, le tochnit de la Chalouka, c'est de diviser et de déraciner une grande partie de la terre d'Israël au profit eh bien, des Arabes de l'époque. Et donc, il se met à pleurer là-bas dans cette chambre. Et il raconte, le Rav Tzvi Yehuda, qu'au moment où il était en train de pleurer, « Pitom uigia ». Et il écrit, le Rav Tzvi Yehuda, il dit, « Ve betar she uigia, ve ech haya yachol lo lagia ». Et bien sûr qu'il est arrivé. Et comment il aurait pu ne pas arriver, Bichlal? Et il est arrivé, Rabbi Yaakov Moïse. Et il s'est mis à pleurer avec moi. Et on a pleuré ensemble pendant près d'une heure. Et au final, il m'a regardé et il a dit, Met Hashem Aitazot Iniflat Beinen. C'est-à-dire que, ok, c'est très dur cette histoire qu'on va se séparer d'une partie de la terre d'Israël. Aval, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que va passer la Géoula. Aziala. Ou Samar Simcha Gedola, 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 Beyom Akamata Medina. Il a été d'une joie tellement énorme lorsqu'il a vu et ressenti Akamata Medina. Seulement à ce moment-là, quelqu'un lui a posé une question. Quelqu'un lui a posé la question par rapport au tfilot qu'on doit faire à Yom Ha'atzmaout. Halel, Birkat Shehechiyanu. Et il a dit quelque chose qui est tellement, tellement pashut, tellement pashut. Mais moi, quand je le dis, je passe pour Pseder, je suis un petit jeune qui dit ça, je suis mitlev, je m'emporte dans mes sentiments pour l'État d'Israël. Donc moi, je ne suis pas pris au sérieux. Mais Rabbi Yaakov Moshe Harlap, c'est Pseder. Quand on lui demande, est-ce que ce serait pas un safek bracha levatala de faire brachat shehechiyanu ayom ha'atzmaut. Il répond, tirei, medina la'ama yehudi, achare alpaim shnot galut, זה לא יכול להיות יותר גרוע ממכנסיים חדשות. Il dit, en français, je traduis, il dit, écoute, est-ce que ce ne serait pas une bracha à ne pas faire et tout? Il répond, tu sais, la création d'un État juif en terre d'Israël après 2000 ans d'exil, ça ne peut pas être moins bien qu'un nouveau pantalon. Sur un nouveau pantalon, tu ne te prends pas la tête et tu fais chez Réanou parce que tu as acheté un nouveau pantalon. Et tu poses la question s'il faut faire chez Réanou pour la reconstruction du pays d'Israël. Voilà, ça se passe de commentaires, j'ai envie de te dire. Maintenant, je vous ai parlé de la grandeur de Rabbi Yaakov Moshe. Mais est-ce que c'était uniquement à Merkaz Arav? Il est devenu le Rosh Yeshiva de Merkaz Arav. Donc peut-être que c'est que dans le monde sioniste. Mais qu'est-ce que tu crois? Lorsqu'il y a eu l'annonce de la Levaya du Rav Harlap, il y a un psak qui est sorti de Bnei Brak. Et quand je te dis en 1950-51, un psak qui sort de Bnei Brak, tout le monde sait d'où vient le psak. 1951, Bnei Brak, c'est le royaume du Chazon Ish. Rabbi Shaya ou Karelitz, le Chazon Ish sort un psak que tous ceux qui sont des Bnei Toire, tous ceux qui étudient la Torah, doivent faire kriya, doivent se déchirer le vêtement, comme un élève se déchire le vêtement pour son rav mouvak, il dit on est tous les Talmidim de Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Tous. Donc il a ordonné que tous les Bnei Torah, quel qu'il soit et où qu'il soit, fasse kriya pour Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Vous commencez un petit peu à comprendre qui est le personnage. Qui est cet élève qui, comme je l'ai dit, est le troisième pilier. Le Rav Tzvi Yehuda, le pilier de la Ouma, le Rav Anazir, le pilier de Adam, et le Rav Harlap, le pilier de la Torah. Mais peut-être que la chose la plus importante à raconter sur le Rav Harlap, et pour que vous compreniez de qui on parle, c'est son lien, son kesher nafshi amok entre lui et le Rav Kook. Il y avait un lien entre le Rav Harlap et le Rav Kook au dire du Rav Anazir que personne n'a eu, ni son fils, ni moi-même, disait le Rav Anazir. Le Rav Harlap, d'abord, il accompagne le Rav Kook partout. Dans le Massa à Moshavot, la fameuse balade dans les Moshavot que le Rav Kook va faire, eh bien, le Rav Harlap fait partie du voyage, évidemment. Le Rav Harlap raconte une histoire extraordinaire pour comprendre qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Il raconte qu'ils partent donc tous les deux dans Massa à Moshavot et il raconte quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vous citer où est-ce que c'est? Petite seconde. Voilà. Je vais vous citer une anecdote extraordinaire. Donc, ils sont dans les Moshavot, dans les différents villages qu'ils sont en train de visiter. Et le soir, ils partagent leur chambre, le Rav Harlap et le Rav Kook. Maintenant, on est à cette époque-là, première Massa à Moshavot, c'est en 1900. Première Massa à Moshavot. Je crois que c'est en 1913, je crois, Machoukazé. Et la deuxième, je crois en 1923, si je ne me trompe pas. Mais dans tous les cas, il part avec lui, donc lui, il est encore assez jeune, et il partage sa chambre avec le Rav. Et une nuit, il raconte que il s'est réveillé. Une nuit, il s'est réveillé. Il s'est réveillé et à ce moment-là, il a vu le Rav Kook faire les 100 pas dans la chambre. Il faisait les 100 pas. « Itorarti b'emtsa laila » il écrit. « Veraiti et Rav nissa b'se'arot ruach, alors vashov le orech acheder » Il faisait les 100 pas dans la chambre. « Necheradti Veitromamti. J'ai tremblé et je me suis ressaisi. Je me suis levé. Veine nigash elai veachazbi. Et là, à ce moment-là, le Rav est venu me voir et il m'a attrapé. Veyadav ayu karot kekerach. Upanav ba'aru vezaharu kelapidim. Ses mains étaient froides comme de la glace, mais son visage était illuminant et illuminé comme une torche enflammée. Umipiv parzu divrei lehava. Et de sa bouche sont sorties des paroles de feu. Et il lui dit, le Rav Kook dit en yiddish, il dit au Rav Harlap en yiddish, il dit, Rebyan Maïshe, Irvein verbrennt en funde avus Hashem. Il dit, Ani nisraf me avat Hashem. Je brûle d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Bon, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi des fois je me réveille pendant la nuit. Ça m'arrive. Autant te dire que c'est pas ça qui m'habite à ce moment-là, quoi. Moi, c'est je me réveille parce que j'ai bu trop d'eau avant d'aller me coucher. Moi, je suis pas le Rav Kook qui me réveille dans la nuit et qui dit je brûle d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Nous, Matem Rotsi. Chacun son niveau. Donc, vous avez compris un petit peu qui c'est Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Mais, véritablement, il faut qu'on comprenne, Rabbi Yaakov Moshe, il vient compléter, j'ai dit, un puzzle. Un puzzle qui est composé, jusqu'à présent, on l'avait vu, de trois pièces. Il est la quatrième pièce du puzzle. Agar, entre parenthèses, vous inquiétez pas, il est évident qu'à un moment donné, dans notre série, on fera un cours sur le Rav Kook, bien sûr. Mais je le garde, j'ai trop peur pour l'instant de faire le cours sur le Rav Kook. Je me sens pas encore prêt. Et donc je le garde au chaud, ça viendra, vous inquiétez pas, c'est sûr, on n'a pas le choix de toute façon. Mais il y a un puzzle où il manquait la quatrième partie. Alors, pour que vous compreniez bien ce puzzle, eh bien, je voudrais vous faire un dessin. Voilà, aujourd'hui, on est au club du dessin, parce que sinon on ne pourra pas bien comprendre de quoi on parle. Alors, attention, voilà le dessin. Peut-être que c'est une forme que vous avez peut-être déjà vue, soit dans certains livres, ou alors dans certains magasins pour touristes, ou alors dans certains magasins pour touristes. Alors, cette forme, vous la connaissez, peut-être, ça fait comme ça. Attendez, je suis en train de rassembler toutes mes forces de dessinateur, c'est pas évident, hein, bien sûr. Hop là. Attention. Ah, je suis bon en dessin, c'est fou. C'est fou. Voilà. Et voilà. Alors, pour l'instant, j'ai rien noté dans les ronds, mais vous avez peut-être déjà commencé à comprendre de quoi on parle. Alors, de quoi on parle? Eh bien, si je devais commencer à marquer des choses, eh bien, je marquerai dans le premier rond, ici, Chesed, ensuite, Gevura, ensuite, Tiferet, ensuite, je marquerai Netzach, Hod, Yesod, Ve, Malchut. J'ai mal fait mon dessin, évidemment. Voilà. Voilà, là c'est mieux fait. Hop là, vous l'avez vu mon dessin, il est beau. Il a la classe, il a une très très grande classe. Donc vous connaissez ce dessin, c'est un dessin Alpia Kabbalah, on est très kabbaliste ce soir. Ce sont les Sphirot Atartonot qui viennent dévoiler à Kadosh Baruch Hu, Mina Elionim et la Tartonim. Très bien, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Ve, Malchut. Bon, maintenant qu'on a dit ça, quel rapport avec ce qu'on est en train d'étudier ce soir? Eh bien, c'est Pashut Meod. Chesed, c'est la Mida de Avraham. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Gevura, c'est la Mida de Yitzhak. Je ne vous apprends rien. Netzach, Hod Yesod Malchut. Intéressant. Eh bien, je sais que Malchut, c'est David. Ou alors, plus exactement, son origine, Yehuda. Yehuda, Zah Malchut. Yesod, Midat HaYesod, dans la Kabbalah, s'appelle Midat Tzvi. Ahod, c'est Tafkido Shel Aaron HaKohen. Le Netzach, c'est Moshe. Et Tiferet, c'est Yaakov. Eh bien, les amis, vous avez compris donc de quoi on parle. Nous avons ici un puzzle de quatre personnes qui dévoilent et descendent tout simplement la Shrina, Mina Elionim et la Tartonim. Avraham Yitzhak, c'est le Rav Kook. Ensuite, vous avez Hod, chez la Rav David HaKohen. Yesod, chez Zetzvi, Vemalchut, Yehuda, c'est la Rav Tzvi Yehuda. Et Tiferet, Venetzach, c'est Yaakov Moshe. Et ainsi, le Rav et ses trois grands élèves, eh bien, sont tout simplement la clé pour faire descendre la présence divine, Mina Elionim et la Tartonim. Alors les amis, qu'est-ce que je pourrais encore dire sur Rabbi Yaakov Moshe Charlap? Il n'est pas du tout comme les autres rabbanim qu'on a évoqués, qui avaient chacun des influences à l'international, qui ont laissé des choses dans notre rapport avec les nations, qui ont une influence. Rabbi Yaakov Moshe Charlap, Zatzniut, Vakdusha, à l'intérieur. À l'intérieur, Mamash. Il était le tzaddik de Jérusalem, le tzaddik de la Torah, jusqu'au bout, au bout, au bout du monde. Mais il va nous laisser des messages qui nous permettent de construire l'intériorité du peuple juif. Si le Rav Tzvi Yehuda vient construire le peuple juif, le Rav Charlap vient construire son intériorité. Il va nous donner un message extraordinaire, mais juste avant de vous le donner, il faut que je vous remette, eh bien, cette musique, ce nigoun. Ce nigoun, c'est le nigoun de Shirat Hayam. Car c'était connu à Jérusalem que Shabbat Shira, tout le monde allait à Shar Chesed, allait chez le Rav Charlap. Tout le monde venait pour écouter Nigun Ashira. Le Rav Charlap a mis en chanson le Nigun que je vous ai fait écouter, que je vais vous refaire écouter tout de suite. Et une fois qu'il terminait le Nigun, il disait la Shira verset après verset avec le Nigun de la tradition ashkénaze. Et tout le monde répétait après lui. Je vous fais écouter le nigoun et la voix du Rav Charlap qui commence les psukim. Là, il commence. Et là, les gens répondent derrière lui et redisent les versets. Et plus on continue dans la chanson, et plus le nigoun il revient, et c'était quelque chose de fantastique. Pour lui, Shirat Hayam, eh bien, c'était tout simplement le fait de chanter Shirat Hayam à Jérusalem, c'était la réalisation de Shirat Hayam. Pour lui, eh bien, là où nos sages nous disent que Ra'ata Shifra Alayam, Mashelora Yecheskel Anavi, que une servante a vu sur la mer ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu dans sa prophétie, il disait, c'est de l'amour. Mais le problème, c'est que la Shifra, nous disent nos sages, après coup, elle est redevenue Shifra, elle n'est pas restée à son niveau extraordinaire. Alors que Yecheskel, lui, il est resté à son niveau extraordinaire. Il dit, La réalisation de Shirat Hayam, c'est lorsque les Juifs peuvent la rechanter à Jérusalem. Et donc pour lui, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Il avait totalement et pleinement conscience de l'honneur, de la joie, de la grandeur d'être né à Jérusalem, de vivre à Jérusalem, de mourir à Jérusalem, alors que pendant 2000 ans, Am Israël a rêvé d'être à sa place. Il avait une conscience tellement profonde de l'histoire, de notre histoire, de son histoire, qu'il nous a laissé un dernier enseignement extraordinaire. Ce sera mon dernier enseignement de ce soir, avant de remettre le Nigoun, mais un enseignement extraordinaire. Nous dit le Rav Harlap, vous savez, le Midrash nous dit, et la Gemara également, que Chatan mochalim lo al kol avonotav. Que le Chatan, eh bien, le jour de ses noces, on lui pardonne toutes ses avérotes. Toutes ses avérotes. Là où, terminé. Chav, d'où ça vient cette histoire? Eh bien, ça vient que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous dit le Rav Harlap, un Chatan qui se marie, on lui fait un cadeau. Ah, tu viens pas au mariage les mains vides, ça se fait pas. Ah, donc si moi je viens lui faire un cadeau, Chatan, Baruch que Gama Kadosh Baruch Hu, il vient lui faire un cadeau. Et quel est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu? Chez Mochel lo al kol avonotav. Qui lui pardonne toutes ses avérotes. Tiens là, c'est mon cadeau, tu repars de zéro, tout va bien. Dit le Rav Harlap, ce qui est vrai au niveau du Chatan individuel, eh bien, c'est à la chat kama vechama, c'est a fortiori vrai au niveau du chatan qui s'appelle Am Israël, qui se marie avec Eretz Israël. Lorsque Am Israël revient en terre d'Israël, eh bien, c'est ce mariage qu'on a attendu pendant 2000 ans qui se réalise, où le chatan se marie avec la kala, et donc à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il fait son cadeau de mariage. Vemochalim lo al kol avonotav. Nous dit le Rav Harlap, à partir du moment où Am Israël est retourné en Eretz Israël, et donc s'est marié avec sa terre d'Israël, avec sa Kale, alors toutes les avérot qu'on a pu faire depuis Chet HaEgel jusqu'à aujourd'hui nous ont été effacées. Ze amatana gdola shel HaKadosh Baruch Hu. Rabotai, Arav Yaakov Moshe Harlap, le tzaddik. Le tzaddik de Jérusalem. Celui qui aura réussi à faire que son rav devienne le grand rabbin d'Eretz Israël parce qu'il était reconnu par tous comme étant le Gdol Rabbané Yerushalayim. Ze Rabbi Yaakov Moshe Harlap. L'amoud, le pilier de la Torah. Dans l'enseignement du Rav Kook. Ben maintenant qu'on a fait les trois élèves, il faudra bien qu'un jour on s'attaque au rabbin. Mais comme je vous l'ai dit, ça sera pour une autre fois. En attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec, pour la première fois dans notre rétrospective des grands de notre histoire, pour la première fois un Algérien, puisque la semaine prochaine nous parlons de quelqu'un que tout le monde connaît, mais parce qu'on le connaît tellement. Eh ben, on a envie d'en connaître un peu plus. On va parler la semaine prochaine du Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même zoom, comme disait l'autre, même jour, même heure, même pomme. À bientôt, les amis, et Erev Tov. Hop là.